One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello à tous, c'est Laureta, plus connue sous le nom de Laureta Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome du grand coquelicot, qui est une tendance de nos sociétés à détester ou bien décrédibiliser systématiquement tous ceux qui dépasseraient la moyenne d'un groupe social donné. Donc si vous voulez, c'est le fait de ne pas oser être meilleur que quelqu'un d'un groupe. C'est-à-dire que si vous avez un groupe d'amis, eh bien vous allez vous sentir mal si vous réussissez mieux qu'eux. C'est-à-dire que c'est mal vu de s'élever au-dessus du niveau global du groupe. On favorise donc l'homogénéité et, donc c'est une métaphore, vous l'avez compris, si quelqu'un se fait remarquer par ses capacités, ses performances meilleures, etc., si cette personne, ou entre guillemets ce coquelicot, est trop grand, boum, on lui coupe la tête et ainsi personne ne se sent inférieur dans le groupe, personne ne se sent supérieur, tout le monde est au même niveau. Donc je suis sûre que ce phénomène vous parle. Peut-être que vous avez un groupe d'amis d'enfance dans lequel vous vous sentez mal d'exprimer le fait que vous avez réussi, que vous avez acheté, que vous êtes parti à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est au sein de votre famille, au sein de vos frères et sœurs, vous avez peut-être mieux réussi en termes de carrière, en termes d'études, vous avez un niveau supérieur d'études, etc. Bref. Et ce syndrome puise sa source dans la peur de paraître arrogant, peur de paraître prétentieux, la peur du regard des autres et du jugement des autres, et également le complexe de supériorité ou d'infériorité. Et quand vous évoluez, si jamais vous évoluez dans un environnement dans lequel il y a ce syndrome en place, c'est-à-dire si vous évoluez au sein de groupes, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement, au sein du groupe dans lequel ce syndrome est en place, eh bien vous allez malheureusement vous effacer petit à petit, mais je vais y revenir. Quand on se retrouve dans un groupe avec un fort syndrome du coquelicot, on a tendance à s'auto-censurer, à se dénigrer, à ne pas accepter les compliments, on a peur de dire qu'on est fier de tel ou tel succès, on a peur de dire qu'on est fier de tel ou tel accomplissement, on a peur de se faire remettre à sa place ou de paraître prétentieux ou arrogant. Le problème, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est que si vous essayez de paraître plus petit que vous n'êtes, c'est-à-dire de minimiser vos succès, de faire en sorte que les gens ne vous remarquent pas trop, il y a deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est que vous allez vous mettre vous-même à faire la même chose avec d'autres gens. Pourquoi ? Parce que c'est insupportable. Si vous vous suivez, entre guillemets, les règles d'un groupe et que vous voyez d'autres personnes qui ne les suivent pas et pour qui il n'y a aucune conséquence, ça va forcément attiser en vous une certaine jalousie. Et le deuxième point, c'est que en faisant ça, vous allez vous rabaisser et vous allez finir par croire que vous n'êtes pas meilleur, que vous n'êtes pas génial, que vos fiertés ou que vos succès ou vos accomplissements ne valent pas la peine d'en être fier, et finalement vous allez devenir invisible. Donc quand on voit quelqu'un qui a l'air de se sentir libre, libre de ses pensées, libre de dire qu'il est excellent, qu'il est beau, qu'il est smart, qu'il est sexy, etc., eh bien ça va nous remplir d'amertume et on va avoir envie d'éteindre leur lumière. Les personnes qui brillent et qui montrent qu'ils n'ont pas peur et qui se sentent tellement sereins avec leur image, avec leur personne. Quand nous-mêmes, on est dans le syndrome du grand coquelicot, eh bien, on va les jalouser, on va pas aimer, ça va nous mettre mal à l'aise. On va se dire, non mais qu'elle est prétentieuse, ou qu'il est prétentieux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder une personne dans votre entourage ou même sur les réseaux sociaux, une personne qui affirme haut et fort « je suis quelqu'un de pétillant, je suis quelqu'un d'intelligent ». Si ça déclenche quelque chose en vous, quand les gens vous disent « ouais, je suis trop fière de ça », quand les gens parlent positivement d'eux-mêmes, est-ce que ça déclenche quelque chose en vous ? Je vais vous prendre mon exemple. J'ai une amie qui parle souvent de son corps. Elle me parle souvent de son corps, elle me dit souvent que son corps est formidable, qu'elle a des abdos, qu'elle adore ses cuisses, qu'elle adore son corps. Et à un certain moment de ma vie, ça me déclenchait, ça m'énervait, je trouvais que c'était un peu trop, je trouvais qu'elle était prétentieuse, je trouvais qu'elle se la racontait, comme on dit vulgairement, et ça me gênait en fait. Et puis, quand j'ai fait un travail d'introspection, d'ailleurs j'ai refait complètement mon programme de coaching moi-même, je me suis rendu compte que ce qui me dérangeait, c'est pas tant qu'elle ose dire qu'elle était belle, qu'elle se sentait bien, qu'elle aimait son corps, c'est surtout que moi, je n'osais pas le dire. Et c'est ça qui venait me chercher très fort. Et dès lors que j'ai réussi justement à arrêter de vouloir la rabaisser, la critiquer et de vouloir la voir avec le filtre de la jalousie, je me suis sentie tellement plus libre. Quand moi-même, j'ai osé dire, voilà, je suis une personne aimante, je suis une personne empathique, je suis une personne douée pour telle chose, ben finalement, je me suis rendu compte que devant moi s'ouvrait un monde de possibilités infinies. Et quand on s'autorise à dire ce en quoi on croit, ce pourquoi on s'aime, le monde s'ouvre à nous et on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans nos projets. Donc la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez faire partie de ces personnes qui sont déclenchées par le succès ou par l'affirmation positive des autres ? Ou est-ce que vous voulez plutôt être ce genre de personnes qui justement célèbrent leur propre succès ? Quand on minimise, quand on se minimise, si quelqu'un vous fait un compliment, ou dans un groupe, quand on n'ose pas affirmer gaiement qu'on est super fier de soi, ça procure un sentiment de sécurité mais hyper temporaire, hyper éphémère. C'est comme quand on est caché dans un coin, en fait, on se sent entre guillemets en sécurité, mais on n'est pas non plus hyper serein. Le problème, c'est que ça, c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa vie. Ça veut dire que le plus gros risque, c'est que vous fake it till you make it, c'est-à-dire que vous finissiez par croire tout ce que vous dites à propos de vous-même. Ça marche dans les deux sens. Quand on n'a pas confiance en soi, il faut agir dans le sens de « ok, j'ai confiance en moi, et si j'avais confiance en moi, comment j'agirais ?» Mais c'est pareil dans l'autre sens. Si on passe sa vie à entretenir un langage intérieur négatif, à se dénigrer, à ne pas oser dire qu'on est fier, on va finir par y croire. Et du coup, ça va nous bloquer dans nos choix et dans nos possibilités et dans nos rêves. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée quand je suis arrivée aux États-Unis. Surtout que j'ai été coachée par des Américains. Je participe aussi à des groupes de coaching, à des conférences, à des prises de parole en public. Et je me suis rendu compte que la différence majeure, on va dire, avec la France, c'est que réussir en France, c'est mal vu. Ça rejoint d'ailleurs nettement mon podcast sur l'argent. Je vous invite à l'écouter si vous avez du mal à parler d'argent. Si pour vous, tous les gens riches sont des personnes mauvaises, si c'est tabou, que vous avez besoin peut-être de débloquer des croyances concernant l'argent, foncez, le podcast est fait pour vous. Récemment, je vous ai fait un post Instagram où je vous disais que j'avais plus d'amis autour de moi dans les pires moments de ma vie que je n'en ai jamais eu dans mes meilleurs moments. C'est vrai, et c'est surtout parce que nous sommes beaucoup plus susceptibles de créer des liens avec les autres sur la souffrance que sur la positivité et la croissance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, l'heure est à la vulnérabilité. Tout le monde parle de ses souffrances, de ses difficultés, de ses maladies. Tout ça, ça permet de connecter davantage avec les gens. Et c'est pour ça que c'est hyper en vogue de dire « voilà, moi j'ai subi tel truc, etc. » et de le mettre au grand jour sur les réseaux sociaux. Les gens sont globalement fascinés par la tragédie. On est mis souvent très mal à l'aise, ou en tout cas en France, par le succès des autres, parce qu'on a été complètement conditionnés à être en compétition les uns avec les autres. Donc le succès des autres, forcément, vient déclencher quelque chose chez nous. Et ça remonte même au niveau de l'éducation, à l'école, etc. Avoir de l'argent, c'est mal vu. Réussir, c'est mal vu. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à quelqu'un qui a réussi ? Je vous laisse faire l'exercice. Pensez à quelqu'un qui, selon vous, a réussi. Quels sont vos critères pour vous de réussite ? Et là, laissez-moi deviner. C'est probablement soit une personne connue, soit une personne célèbre, soit une personne qui a de l'argent, soit une personne qui a un poste haut placé dans une entreprise. Est-ce que je me trompe ? Dites-moi en commentaire. Pourquoi ? Parce que dans nos cultures occidentales, depuis longtemps, on associe le succès, entre guillemets, au matériel, ou en tout cas au professionnel. Mais réussir, est-ce que ça ne veut pas plutôt dire être heureux ? Vous avez 3 heures. Non, je rigole. Non, mais je vous le donne en 1000. Évidemment, vous le savez, la notoriété, l'argent ne fait pas le bonheur, vous le savez très bien. Et moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que l'argent contribue au bonheur, quand on en fait quelque chose d'intelligent et de bien. Mais par contre, je pense aussi que sans argent, on peut totalement être heureux. Ceux qui sont célèbres, ceux qui ont créé des empires, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, sont ceux qui viennent directement à notre esprit quand on parle de succès. Généralement, la notoriété, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance dans une certaine zone de génie, comme par exemple un neurochirurgien, un avocat, etc., ce sont des étiquettes de succès. Ça va avec les professions parce qu'en fait, elles viennent avec des gros salaires, généralement. Alors pourquoi, quand je vous demande de penser à quelqu'un qui a réussi, vous ne pensez pas directement à votre voisin qui se lève chaque jour avec le sourire parce qu'il est entouré de ceux qu'il aime? Avant, être successful, c'était plutôt associé à avoir beaucoup d'argent pour acheter des choses qui démontrent ce succès, justement. Maintenant, je dirais que c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins la tendance. Depuis plusieurs années, on va dire, la qualité de vie vient aussi au premier plan. Les gens qui vivent de leur passion commencent peu à peu à être perçus comme des gens qui réussissent. Les chefs, comme par exemple les chefs de Top Chef, certains entrepreneurs, mais je trouve que ça vient quand même un peu trop souvent avec la notoriété. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand on regarde la définition de succès, c'est l'accomplissement d'un but, d'un objectif, ou c'est un résultat heureux. Ok ? Donc, pourquoi est-ce qu'on le cantonne uniquement au niveau professionnel ? Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on peut être successful, on peut réussir sa carrière et pour autant se sentir mal, misérable et se sentir malheureux dans sa vie. Donc, comme quoi, le succès, c'est très relatif. Oser briller, oser réussir, oser rayonner, ça n'est pas simple. J'ai coaché une chef d'entreprise la semaine dernière qui m'a avoué qu'elle avait peur de réussir. Elle avait peur de postuler à un poste de direction parce qu'elle avait peur de réussir l'entretien et de ne pas être au niveau de ce qu'elle croit qu'on attend d'elle. Elle n'a pas postulé et finalement on est venu la chercher. Donc c'est une fin heureuse, elle a eu le job, mais elle avait peur. Pourquoi ? Toujours pareil, parce que notre cerveau craint de sortir de sa zone de confort. Il ne sait pas s'il arrivera à jouer son rôle dans une zone qui est complètement inconfortable et nouvelle pour lui, parce que son rôle c'est de nous maintenir en vie. Et donc dans cette situation dans laquelle il est aujourd'hui, il est déjà très bien. Et il préfère en fait ce qu'il connaît. Et quand on parle de succès, il y a un autre concept qui rentre en jeu, c'est le regard des autres, la peur du regard des autres. On a peur de paraître prétentieux, on a peur d'être taxé, d'avoir la grosse tête. On a peur d'avouer qu'on est fier de soi. Avant, j'étais complètement comme ça. Je trouvais que les gens qui disaient à haute voix leur qualité étaient très prétentieux. Mais en réalité, ça ne faisait que de me renvoyer mes propres insécurités. Deuxième exemple, j'ai donc cette amie qui parle souvent de son corps et à quel point elle aime son corps, à quel point elle se trouve belle et mince. Avant, ça m'agaçait, je me disais qu'elle était ultra prétentieuse. En fait, j'étais simplement hyper déclenchée parce que j'aurais aimé moi aussi en penser autant de moi et surtout oser le dire. Après, attention, j'aimerais quand même mettre un petit bémol à tout ça parce que je trouve que certaines personnes prônent l'amour d'elles-mêmes, mais qu'à force de le dire, eh bien, ça finit par prouver l'inverse. Pour moi, si tu aimes ton corps, si tu te trouves telle ou telle qualité, si tu penses que tu as telle qualité de leader, telle qualité humaine, telle qualité, etc., tu n'as pas besoin de le mettre en avant à ce point-là. Tu le sais au fond de toi. Donc pour moi, les gens qui en disent un peu trop sur eux-mêmes, qui sont toujours en train de parler d'eux-mêmes de façon positive, ça peut aussi cacher un manque de confiance en soi. Le tout est de trouver évidemment de la modération, d'être complètement objectif envers soi-même. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu un tout autre monde. Chacun est fier de ce qu'il fait, même les enfants sont encouragés à parler en public, on leur dit de nommer leur victoire, ils sont encouragés à dire ce pourquoi ils sont fiers, et c'est ce que j'essaie moi d'inculquer à ma fille, d'être fière d'elle, de ce qu'elle fait, d'oser le dire. Si on prend mon cas, moi j'estime avoir réussi, mais c'est ma vision, encore une fois, c'est simplement ma vision des choses, ma vision de ma réussite personnelle. Pour moi, le fait de réussir, c'est d'avoir atteint mes objectifs. Ça veut dire que je suis satisfaite de ma vie actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus rien faire et que ça y est, je vais me reposer sur mes lauriers, ça veut simplement dire que, à ce jour, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés. Les objectifs de vie, les objectifs professionnels, les objectifs financiers, les objectifs, tous les objectifs en fait, et du coup c'est ça que j'appelle réussir. Pour moi par exemple, mon succès personnel se mesure si j'ai le sourire le matin déjà. Déjà si j'ai ça, peu importe la situation autour de moi, j'estime que j'ai réussi. C'est pourquoi quand j'étais à Miami, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir réussi parce que chaque matin je savais qu'il faisait beau dehors, je savais que j'étais dans un endroit où je me sentais bien. J'ai un chéri que j'ai choisi, qui m'a choisi, qui m'inspire, qui me tire vers le haut. J'ai la possibilité de travailler partout dans le monde. Ma liberté, c'était vraiment un très gros point pour moi et c'est vraiment ce dont je souffrais quand j'étais en entreprise. J'ai une petite fille en bonne santé, qui dort, qui mange, qui est heureuse et qui grandit super bien. Je fais au quotidien des choses qui me drive, qui me font me sentir vivante, utile. J'apprends énormément. Il y a certains projets qui me rapportent de l'argent, et ça c'est génial et j'en vis très bien et ça je suis super contente, mais il y a d'autres projets qui ne me rapportent pas du tout d'argent ou qui ne m'en rapportent peut-être pas encore, mais c'est pas grave. En fait, je considère avoir réussi parce que j'aime ce que je fais. Et c'est ça pour moi la réussite. C'est pas parce que Jacqueline ou Jean-Michel que vous voyez sur les réseaux sociaux ont une vie de rêve et ils sont en train de siroter des cocos sur la plage, etc., qu'ils ont réussi. Au final, est-ce qu'ils sont réellement heureux? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils font chaque jour? C'est ça la réussite pour moi. Je vous donne un exemple. Ma marque de vêtements qui aurait dû sortir l'année dernière et qui finalement a été reportée d'un an et demi, ben j'estime quand même que c'est une réussite parce que j'apprends. J'ai mûri l'idée, j'ai trouvé une équipe de fous, des filles qui sont extra, des filles qui s'y connaissent, qui vont faire les choses bien. Et je sais que ça va être un succès juste parce que je serai fière de proposer une telle marque aux gens, qu'elle portera les valeurs que j'ai envie de diffuser et c'est bien suffisant et c'est ça pour moi réussir. J'ai aussi réussi à vivre aux États-Unis, c'est un gros must pour moi. Pour certains, ça ne signifie absolument rien. Il y en a même qui détestent les États-Unis et que ce serait pas du tout un signe de réussite pour eux, mais pour moi, c'est le signe que j'ai atteint mon objectif. Et j'ai envie, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, de vous dire que ne vous sentez pas mal de réussir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous savez pourquoi vous faites les choses et qu'elles sont toujours alignées avec vos valeurs. Et j'ai envie de vous partager quelques tips si jamais vous avez peur ou vous vous sentez mal de réussir. Premièrement, quand vous savez pourquoi vous faites les choses et qu'elles sont alignées avec vos valeurs, alors tout s'éclaire. Deuxième point, si quelqu'un est dérangé par votre réussite, c'est que il ou elle a des choses à régler de son côté, mais vous n'allez pas vous faire petit pour ne pas déranger. Vous n'allez pas minimiser vos succès et vos réussites pour ne pas déclencher les autres. Ce qui se passe dans la tête des autres, ça les regarde. Ensuite, voir des gens heureux qui réussissent peut vous donner aussi envie de faire pareil, de vous dire que si eux peuvent, vous aussi vous pouvez. Moi, c'est en voyant des gens réussir que je me dis que je peux le faire aussi. Et il y a un concept qui illustre très bien ces propos, c'est l'auto-sabotage. Ça veut dire réellement prendre des actions aux yeux de tous qui vont dans un sens, et en sous-marin, on va dire, faire des actions qui vont à l'encontre. Et ça, je pense que tout le monde le connaît, c'est quand on a peur de réussir, quand on a peur d'être jugé pour ses qualités. Du coup, on s'auto-sabote parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer cette situation positive, en tout cas. Ça peut être, par exemple, la procrastination, ça peut être sortir, faire la fête avant un entretien important, ça peut être... Je pense que l'auto-sabotage, vous voyez de quoi je parle. Et alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote ? C'est incompréhensible. On a envie d'atteindre un objectif et pourtant, on s'auto-sabote. C'est comme si on avait un ennemi intérieur, une partie de nous qui fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, qui fait tout pour nous faire capoter, alors que l'autre partie de nous fait des efforts à fond pour atteindre ses objectifs. Et en fait, quand on s'auto-sabote, on peut même pas se faire confiance à soi-même. C'est ça le pire dans ce concept-là, c'est qu'on se méfie de nous-mêmes. Donc il va falloir apprendre à identifier ces conflits intérieurs, avant surtout qu'ils nous mènent à l'échec. Va falloir aussi savoir exactement ce qu'on veut. Et une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut, plus rien n'a d'importance autour, puisque vous œuvrez dans la direction que vous savez être la bonne. Et donc ça, c'est vraiment la solution à la peur de réussir. C'est savoir exactement pourquoi on fait les choses. Ce que je vous inviterai à faire à la fin de ce podcast, c'est de vous dire, ok, quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que je veux atteindre tel objectif? Et il faut que votre pourquoi, ce soit un pourquoi qui vous concerne vous, pas qui concerne Pierre, Paul, Jacques, Jean, Fifrelin. Non, pas je veux perdre du poids pour plaire à mon mec. Non, un vrai pourquoi, la vraie raison pour laquelle vous faites les choses. Quand on atteint un niveau de bonheur jamais connu auparavant, notre cerveau va tout faire pour nous faire redescendre à un niveau inférieur puisqu'il a peur de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qu'on appelle l'upper limit problème. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est de se dire, ok, j'ose pas être le coquelicot qui sort la tête du champ parce que j'ai peur de ne pas savoir gérer. Je pense que la première des solutions pour ça, c'est vraiment de connaître ses valeurs et de mettre en place un plan d'action qui va complètement en ligne avec ses valeurs. Donc là, j'aimerais vous poser des questions pour vous laisser avec ce podcast. C'est qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Et qu'est-ce qui vous prouvera que vous avez réussi? À quoi est-ce que vous allez identifier votre succès? Et dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est que si le succès des autres génère chez vous une pointe de jalousie, réfléchissez pourquoi. Qu'est-ce qui vous déclenche? Quelle est la raison qui vous déclenche? Et recherchez toujours l'opportunité de croissance. Si cette personne réussit, alors vous pouvez le faire. Si cette personne réussit et que ça vous dérange, est-ce que vous n'aimeriez pas être à sa place? Et si oui, comment faire pour être à sa place? Comment faire pour réussir tout aussi bien qu'elle? Petit rappel, vos amis sont les personnes qui veulent le meilleur pour vous. Les personnes autour de vous, dans des groupes définis qui ne veulent pas le meilleur pour vous, qui sont jaloux, qui vous critiquent parce que vous brillez, parce que vous osez rayonner, ne sont pas des gens de qui vous voulez vous entourer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.